au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages s'intéresse aujourd'hui au dernier livre de Nicole Audouarin, Les cellules souches, porteuses d'immortalité, publié aux éditions Odile Jacob en 2007. La saga des cellules souches a commencé en 98 et avec des espoirs et des inquiétudes. Espoir de thérapie cellulaire avec les cellules souches potentiellement immortelles, on pourrait alors soigner des maladies telles que la maladie de Parkinson, la chorée de Huntington et peut-être un jour les cancers. Mais la recherche en matière de cellules souches est aussi source d'inquiétudes et source de questions éthiques. Doit-on en effet parler d'embryon lorsque l'on parle de cellules souches embryonnaires, d'être humain lorsque l'œuf est fécondé? Quant au clonage reproductif, est-il moralement correct? Nicole Audouarin, dans son ouvrage, raconte cette aventure scientifique avec le regard de l'embryologiste pour nous donner les enjeux éthiques, les perspectives thérapeutiques et les nouvelles formes de recherche. L'occasion aussi de détailler ce que sont les cellules souches, comment elles sont apparues dans l'histoire et de savoir pourquoi les êtres humains, par exemple, ont perdu cette capacité d'autorégénération, là où certains animaux, tels que l'hydre, le triton ou encore la salamandre, arrivent à faire repousser leurs organes. Nicole Audouarin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Comme je le disais à l'instant, vous êtes embryologiste, professeur honoraire au Collège de France, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Et puis, j'ajoute que vous occupez actuellement la chaire de la biologie de la forme et du développement à l'UNISCO, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Dans une précédente émission, nous avons évoqué votre parcours d'embryologiste et nous invitons nos auditeurs à télécharger cette émission sur notre site. Mais revenons aux cellules souches porteuses d'immortalité. Malheureusement, dans les 20 minutes qui nous sont apparties, nous ne pourrons pas parler de tous les thèmes qui sont soulevés dans votre livre, mais je vous propose d'aborder les sujets suivants, à savoir la capacité qu'ont certains animaux à régénérer un membre alors que les êtres humains, par exemple, n'en sont plus capables ou n'en sont pas capables. Sera-t-il également possible un jour de régénérer le cœur? Nous parlerons des cellules souches du cerveau, des cellules souches chez les adultes, puisque nous parlons très souvent des cellules souches embryonnaires, mais il existe également les cellules souches des adultes, les cellules souches du cancer, et puis également, bien sûr, nous parlerons de l'éthique et des cellules souches. Mais tout d'abord, Nicole Audouarin, dans votre premier chapitre, vous accordez une large importance à tous ces animaux qui ont cette capacité de régénération. Comment explique-t-on le fait que les tritons, et en l'occurrence l'hydre, c'est l'exemple que vous prenez, puissent se régénérer, puissent recréer un organe lorsqu'il est défectueux?
Écoutez, j'ai consacré le premier chapitre du livre à ces problèmes de régénération parce que je pense qu'il sous-tend toute la problématique des cellules souches qui est devenue d'une actualité tout à fait brûlante depuis 1998, date à laquelle on a réussi à cultiver des cellules souches humaines en quantité illimitée et pour une durée aussi illimitée. Alors, les animaux qui régénèrent sont nombreux, mais il y en a qui régénèrent vraiment énormément puisqu'ils sont capables d'utiliser cette méthode de régénération pour se reproduire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reproduction asexuée. Tout simplement, si leur corps est coupé en deux, chaque partie va régénérer la partie manquante. Et même dans le cas de certains animaux comme la planaire, dont j'ai beaucoup parlé, eh bien, c'est un mode de reproduction qui est utilisé spontanément par l'animal. Et il se fixe à un substrat par la région caudale et puis il s'étire et son corps se coupe en deux et on obtient au bout de quelques temps deux planaires. La partie qui contient la tête va régénérer la partie postérieure et inversement pour la partie postérieure qui va régénérer une partie contenant la tête. Alors comment est-ce que ces animaux peuvent accomplir cette espèce de reformation du corps, c'est-à-dire d'embryogenèse qui est retardée mais qui ressemble beaucoup à une embryogenèse? Eh bien, c'est parce que, dans le cas de la planaire par exemple, ils contiennent des organes qui sont comme les nôtres, formés de cellules différenciées, mais ces cellules différenciées des organes ne se divisent pas et elles n'ont pour évolution que de fonctionner pendant un certain temps et de mourir, comme si le fait qu'une cellule devenait spécialisée la conduisait assez rapidement à mourir. Mais elle est remplacée, cette cellule qui meurt, parce que entre les organes, il y a des cellules indifférenciées qui ne sont sont autres que des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de s'auto-reproduire, mais en même temps de former, quand elles se divisent, un autre type de cellule qui va être capable de se différencier et de donner n'importe quel type des cellules de la planète. Alors, dans le cas de l'hydre, les choses sont un petit peu différentes parce que l'hydre est un organisme dont on se demandait au début si ça n'était pas une plante. Ça ressemble un peu à une plante. Et on a décidé que ce n'était pas une plante. Je raconte tout ça, c'est l'histoire des travaux de Tremblay au XVIIIe siècle. L'hydre n'est pas une plante parce qu'elle bouge. Elle est capable de mouvement. Par conséquent, les plantes, c'est pas leur cas. Mais elle est capable, l'hydre, de se renouveler en permanence. C'est-à-dire que elles forment tout le temps des tissus nouveaux et les tissus anciens disparaissent. Donc là, ce sont des animaux qui ont des réserves de cellules souches qui ont une durée de vie limitée. Par conséquent, ce que j'ai voulu dire dans tout ce chapitre, c'est que la vie, c'est une espèce d'équilibre entre la prolifération, c'est-à-dire la création de vie, et la mort. Les cellules sont destinées à mourir et elles sont remplacées. C'est ça la vie, c'est un équilibre entre vie et mort.
Qu'en est-il pour l'homme? Puisque l'homme, si on lui coupe un bras, il ne repousse pas. Oui. Et pour autant, par exemple, au niveau du cerveau, il y a une régénération cellulaire.
Oui, alors, dans le cas de l'homme, c'est un petit peu comme dans la planète. Enfin, c'est-à-dire que la notion de cellule souche, elle a été définie et elle a été même créée à propos d'un tissu que nous avons et qui se renouvelle particulièrement rapidement et qui est tout à fait indispensable à notre vie, le sang. On s'est aperçu que les cellules sanguines vivent très peu de temps. Par exemple, un globule rouge, chez nous, ça vit 120 jours. Nous en avons 5 millions par millimètre cube. Alors, vous voyez, nous avons 5 litres de sang à peu près. Vous voyez qu'il y a une production permanente de cellules sanguines en quantité énorme. On a cherché où ça pouvait bien se produire. On s'est aperçu que c'était dans la moelle osseuse. Et on s'est aperçu qu'il y a dans la moelle osseuse des cellules, un petit nombre, qui ont cette capacité d'être des cellules en réserve, de se diviser peu, mais de produire des cellules qui vont se diviser beaucoup pour donner le sang, et puis d'autres cellules qui vont reproduire cette petite quantité de cellules si importantes qui sont les cellules souches. Et c'est comme ça qu'on a défini la cellule souche. Alors, vous voyez, le sang se renouvelle de la même manière que les tissus de la planète se renouvellent. Il n'y a pas que le sang qui se renouvelle vite, il y a aussi la peau. Notre peau, elle est changée tous les 21 jours, à peu près, entièrement. Et l'épithélium de l'intestin, il est renouvelé tous les 3 à 5 jours. Donc, il y a la création de tissus en quantité énorme dans notre organisme. Mais cette création, elle est assortie de la destruction de quantités de cellules tout à fait importantes. Alors, pourquoi est-ce que on ne régénère pas un membre? Il y a des animaux qui ne sont pas très éloignés de nous, comme les tritons, les salamandres, qui sont capables de régénérer un membre. Alors, ces animaux-là, ils ont la capacité, ils ont quelques cellules souches, bien sûr, dans la paroi des vaisseaux et dans les cellules qui longent les nerfs, mais la capacité de régénérer des tritons et des salamandres, elle est surtout due au fait qu'au niveau de la lésion, quand on a coupé un membre, les cellules qui se trouvent au niveau de la lésion vont se dédifférencier. Elles vont se dédifférencier et elles vont se mettre à proliférer. Parce que la plupart des cellules qui sont différenciées ne prolifèrent pas. Elles se mettent à proliférer, elles redeviennent des cellules caractéristiques de cellules souches et de fournir un blastème de régénération qui va produire un membre. Alors, chez l'homme et chez les vertébrés supérieurs, cette capacité est réduite. Nous sommes capables de cicatriser, nous ne sommes pas capables de régénérer une grande partie du corps comme un membre. Mais nous avons la capacité de régénérer, comme je vous le dis, un certain nombre de cellules. Alors, le cœur, nous avons quelques capacités de régénération du cœur, mais elles sont insuffisantes et ne sont pas capables de remplacer les lésions qui sont produites, par exemple, par un infarctus, où vous avez des cellules cardiaques qui meurent et qui forment ces zones mortes qui sont si dangereuses après un infarctus à l'intérieur du tissu cardiaque. Alors, quant aux cellules du cerveau, ça c'est très intéressant et c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est une découverte qui a été faite dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a été très difficile à imposer parce que il y avait un dogme qui est que, on naît avec un certain nombre de neurones et on mourra avec moins de neurones. C'est-à-dire que les neurones ne se forment pas, mais ils ne sont capables que de mourir. Et ça, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement faux non plus. C'est vrai que les neurones neurones, il y en a qui vivent aussi longtemps que l'individu lui-même. Ce sont donc des cellules d'une longévité extrême, tout à fait exceptionnelle. Mais il y a cependant la capacité dans notre cerveau de renouveler un certain nombre de neurones. Et ceci a été découvert, et je raconte comment, en écoutant le chant des oiseaux. Et c'est assez poétique et c'est intéressant de voir. C'est ce que j'ai essayé de faire dans tout le livre, d'ailleurs, c'est de montrer comment la découverte se fait. Comment des choses extrêmement importantes sont découvertes alors que souvent on cherchait autre chose, et que c'est la perspicacité, c'est l'ouverture d'esprit du chercheur qui fait que il voit dans l'expérience qu'il a réalisée quelque chose de nouveau qui n'est pas nécessairement lié au sujet de sa recherche immédiate, mais qui, grâce à ses grandes connaissances, l'interpelle et lui donne envie d'insister, de continuer et de chercher.
Lorsque l'on parle de cellules souches, on pense toujours aux cellules souches embryonnaires, mais chez l'adulte, il existe également des cellules souches. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de travailler sur ces cellules souches d'adultes et de ce fait de contourner toute cette question éthique de savoir si on touche à un embryon ou pas?
Oui, alors ça c'est la grande question. Alors il y a des cellules souches chez l'adulte, comme je vous l'ai dit, il y a des cellules souches qui remplacent les cellules que nous avons et qui meurent avant nous. Comme elles ont une longévité inférieure à la nôtre, ces cellules différenciées, il faut qu'elles soient remplacées pour que nous puissions continuer à vivre. Et si elles sont remplacées, c'est parce que nous avons des cellules souches qui sont dans tous nos tissus, et c'est ce qui est découvert de plus en plus. Alors l'idée, ça serait d'essayer de les sortir du tissu, de les cultiver in vitro et de les réintroduire quand il y en a plus pour réparer des lésions. Alors on sait que certaines lésions de faible amplitude peuvent être réparées dans le cœur, peuvent être réparées dans le cerveau aussi grâce aux cellules souches neurales que nous avons. Malheureusement, quand il y a des pertes importantes dans le cerveau, vous savez que la régénération n'est pas suffisante et les réparations ne sont pas suffisantes. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre les cellules qui existent, les cellules souches qui sont indifférenciées mais qui ont beaucoup de potentialités de multiplication et de différenciation pour réparer les lésions, en les aidant un petit peu? Alors, la question est ouverte. Beaucoup de gens travaillent sur ce problème-là parce que ça serait une façon très élégante d'obtenir un résultat en thérapie cellulaire, étant donné que si on prenait les cellules du patient, eh bien, on n'aurait pas de problème de rejet. Et donc, on pourrait simplement aider des cellules que le patient possède à devenir plus nombreuses et à avoir des potentialités de régénération plus grandes. Et c'est ça le but de gens qui sont abondants et qui travaillent sur les cellules souches de l'adulte.
On parle de cellules souches, on pense aux aspects positifs. Il existe aussi les cellules souches du cancer. Et avec cette idée que nous naissons avec une prédisposition plus ou moins importante au cancer.
C'est vrai qu'il y a des prédispositions génétiques, dans certains cas, qui favorisent le cancer. Oui, c'est vrai. Mais le problème des cellules souches du cancer, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup maintenant la recherche en cancérologie. Parce que les traitements que l'on donne aux malades maintenant consiste à réduire la taille de la tumeur, qui est une tumeur en croissance, par de la chimiothérapie qui va intervenir au niveau de la division cellulaire. C'est-à-dire, on va empêcher les cellules tumorales de se diviser. Et on va en provoquer la mort par des produits chimiques qui sont les produits qui interviennent au niveau de la division. Le problème est que, dans un certain nombre de cas, on s'est rendu compte que, en dehors de ces cellules qui prolifèrent, il y a d'autres cellules dans lesquelles les mutations qui ont généré le cancer se trouvent et qui sont des cellules en petit nombre, mais qui ont la caractéristique de cellules souches. C'est-à-dire qu'elles-mêmes se divisent peu, c'est-à-dire elles sont peu sensibles à la chimiothérapie parce qu'elles se divisent peu. Et quand elles se divisent, elles fournissent une cellule semblable à elles-mêmes, donc le stock est maintenu, et elles fournissent une autre cellule capable de proliférer beaucoup. Et ces cellules qui prolifèrent beaucoup, ce sont celles-là qui sont la cible de la chimiothérapie. Mais une fois qu'on les a détruites, les cellules souches sont toujours là. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de caractériser ces cellules souches du cancer et puis de cibler les médicaments, les produits qui sont destinés à détruire les cellules cancéreuses, cibler ces cellules souches plutôt que de cibler les cellules qui sont en prolifération.
Et ces cellules souches du cancer, ce sont des cellules qui ont mal tourné, entre guillemets, qui se sont mal divisées, qui ont reçu une mauvaise information.
Ce sont des cellules dans lesquelles il y a eu un certain nombre de mutations dangereuses qui ont fait qu'elles ont perdu la régulation, la capacité de réguler la prolifération, et puis qui n'obéissent plus aux signaux environnementaux qui les obligent à rester en place d'abord et puis à ne pas continuer à se diviser.
Alors, dans les 5 dernières minutes qu'il nous reste, je vous propose de parler du clonage reproductif. Mais avant, j'aimerais parler du chimérisme. Vos travaux ont porté en partie sur le chimérisme. Est-ce qu'il sera possible, et c'est d'ailleurs un sujet que vous évoquez dans votre livre, de féconder un œuf humain, une cellule humaine, avec une cellule animale?
C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on prend un œuf parce que le problème du clonage reproductif, ça consiste à prendre un ovocyte, hein, c'est-à-dire un gamète femelle d'une espèce, à enlever le noyau et à remplacer ce noyau par le noyau de la personne qu'on veut cloner, par le noyau d'une cellule somatique de la personne qu'on veut cloner. On prend une cellule de peau, on a le noyau d'un monsieur, par exemple, on met ça dans un ovocyte dont on a enlevé le noyau, on va avoir un œuf qui aura 2 N chromosomes et qui va se développer avec le génome complet de la personne qu'on veut cloner. Hein, c'est ça le clonage reproductif. Alors, le clonage thérapeutique, l'idée du clonage thérapeutique, c'est justement de créer des cellules souches avec lesquelles on pourra faire de la thérapie cellulaire et qu'on injectera à un malade et qu'on injectera à ce malade sans que ces cellules aient des risques d'être rejetées parce qu'elles auront le même génome, c'est-à-dire le même génotype exactement que le malade. Alors pour ça, il faudra prendre un œuf, mettre dedans le noyau d'une cellule de ce malade, développer ensuite des cellules souches, et puis à partir de ces cellules souches, s'arranger pour qu'on ait la différenciation des cellules souhaitées et injecter ces cellules souhaitées à la personne qui est malade. Alors, le gros problème, d'abord, c'est un système qui marche très mal dans les médias. Hein. Il faut beaucoup d'ovocytes chez la souris pour obtenir ce type de cellules. Il faut beaucoup d'ovocytes. Chez l'homme, pour obtenir beaucoup d'ovocytes, il faut obtenir ça de jeunes femmes en provoquant des ovulations forcées. Et ça, c'est quelque chose qui éthiquement est extrêmement discutable et puis qui pratiquement est très difficile. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre un ovocyte animal, de lapin par exemple, et puis d'enlever le noyau et puis de mettre le noyau de la personne dont on veut qu'on veut soigner. Alors ça a déjà été essayé. Jusqu'ici, ça n'a pas donné de résultats. Il y a eu des débuts de développement, mais il n'y a pas eu de résultats convaincants.
En Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne, oui. Éthiquement, ça se discute, bien entendu, parce que il existe dans l'ovocyte, quand on a enlevé le noyau, il existe quand même de l'ADN qui se trouve dans les mitochondries et qui est là, c'est de l'ADN de lapin ou c'est de l'ADN animal. Et alors justement, la raison pour laquelle le développement de ces œufs fabriqués de cette manière ne s'accomplit pas convenablement, c'est très probablement parce que il y a une incompatibilité entre l'ADN des mitochondries qui sont d'une espèce et puis l'ADN du noyau qui sont d'une autre espèce. Parce qu'il y a des protéines qui sont produites par ces différents ADN et qui doivent être reconnues convenablement dans le fonctionnement de la cellule. Et il est possible que ce soit de là que ça vienne. On ne sait pas. Enfin.
On garde la possibilité du clonage thérapeutique pour traiter des maladies fatales, hein, telles que les maladies de Parkinson ou les maladies d'Alzheimer, enfin les maladies neurodégénératives, les cancers, la chorée de Huntington, comme je le disais au tout début de cette émission. Quelles autres maladies pourrons-nous un jour traiter?
Oui, alors le clonage thérapeutique, écoutez, je voudrais dire un petit quelque chose ici. Le clonage thérapeutique, c'est une technique dont on a avancé qu'elle pourrait résoudre le problème du rejet de greffe éventuelle de cellules que l'on ferait pour la thérapie cellulaire. Mais maintenant, très très récemment, il y a eu de nouvelles techniques qui ont montré qu'on peut peut-être passer à côté du clonage thérapeutique, c'est trouver quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'on prend des cellules à partir du malade, des cellules de peau. Ces cellules de peau, Par transgénèse, c'est-à-dire en injectant des gènes à l'intérieur de ces cellules, on peut leur donner les caractéristiques de cellules souches. C'est-à-dire qu'elles vont proliférer en gardant leur potentialité à se différencier d'une manière apparemment constante, indéfinie. On peut aussi les faire se différencier parce qu'on a démontré qu'elles avaient des potentialités de différenciation considérables, aussi grandes que les capacités de différenciation des vraies cellules souches provenant d'un embryon. Et très récemment, ça a été obtenu à partir de cellules humaines. Alors, les différents types de maladies qu'on pourrait soigner par la greffe de cellules, il y a un certain nombre de maladies neurodégénératives. Il y a aussi le diabète, le diabète de type 1 qui est dû à un défaut de production d'insuline parce qu'il n'y a plus de cellules alpha des îlots, bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas. Si on pouvait greffer des cellules bêta viables et capables de fournir l'insuline, ça serait une grande chose. Il y a eu des essais de thérapie cellulaire pour le cœur. Après les infarctus du myocarde, il y a d'autres maladies qui peuvent être traitées, quand même beaucoup de maladies, et qui sont déjà traitées. Par exemple, les brûlés, on peut les traiter avec des greffes de peau. Ça, c'est déjà une thérapie cellulaire
qui existe. En mettant culture leur
oui,
peau.
C'est ouais. Oui, et puis on fait des greffes de moelle osseuse en quantité, depuis la fin des années 60. On fait des greffes de moelle osseuse, on sauve de la vie de gens qui ont des maladies sanguines avec des greffes de moelle osseuse. Ça, c'est de la thérapie cellulaire, ça fonctionne déjà.
Dernière question, Nicole Ledouarin. Votre titre, le titre de votre livre, « Les cellules souches porteuses d'immortalité », vous n'avez pas mis de point d'interrogation?
Non, parce que c'est vrai que porteuses, ça veut dire qu'elles ont une potentialité à être immortelles. C'est pas un point d'interrogation, c'est vrai. Il y a un certain nombre de lignées de cellules souches qui sont maintenues d'une manière permanente. Il suffit de les propager, c'est-à-dire de les repiquer d'un milieu à un autre milieu pour qu'elles continuent de proliférer et de survivre. Et puis d'autre part, quand je parle de la régénération chez les hydres ou de la régénération chez les planaires, il y a eu aussi des expériences qui ont essayé de savoir s'il y avait une limite à la possibilité de régénérer. Une planaire coupée en deux qui donne deux planaires, lesquelles planaires sont encore coupées, etc. etc. Et apparemment, il n'y a pas vraiment de limite qui a été démontrée. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que dans les cellules souches que nous possédons, particulièrement les cellules souches de l'adulte, eh bien, il y a un certain nombre de chercheurs qui pensent avoir montré qu'elles perdent avec l'âge, c'est-à-dire qu'elles vieillissent, en somme, elles perdent avec l'âge leur capacité de se renouveler d'une manière aussi vigoureuse qu'elles le font chez le jeune.
Eh bien, je vous remercie, Nicole Ledouarin. Je rappelle le titre de votre livre, « Les cellules souches porteuses d'immortalité », publié en 2007 aux éditions Odile Jacob. Merci de nous avoir rendu visite et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.